Bonjour Daniel et toute l'équipe. C'est pour dénoncer un anarchiste, les jeunes fils du boulanger. On vient de le voir coller un grand A dans sa voiture. Donc c'est un anarchiste. Et dorénavant, on n'achète plus de baguettes chez lui. Je vous invite à tous faire une grande grève autour du boulanger pour les bien apprendre à pas avoir des fils anarchistes. Bordel. Alexandro, je vous appelle de Tarbes.
Oui, j'ai entendu le message laissé par ce monsieur qui était en colère contre les salariés qui n'ont pas voté pour les élections des prud'hommes. Je trouve qu'il a raison. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Mais moi j'étais triste, il m'a transmis sa colère. Eh bien, ces gens qui n'ont pas voté, on ne devrait pas les défendre quand ils arrivent devant le tribunal. C'est comme les gens qui font une grève. Quand ils obtiennent quelque chose, eh bien ceux qui n'ont pas fait la grève, ils ne devraient pas l'obtenir. C'est Jocelyne de l'Ardèche, très en colère aussi.
Bonjour, c'est Marianne. Ben écoutez, moi j'ai légèrement des boules après le premier message diffusé, parce que voilà, j'en ai ras-le-bol toujours qu'on claque les prolos et ça me fait chier. C'est des gens qui sont déjà dans l'exclusion et on continue de les exclure en les méprisant. Ben ouais, un jour s'ils pourront se payer des activités, comme dit une copine, de gosses de riches, ils feront autre chose que du foot, et alors là ils pourront peut-être un jour réfléchir à autre chose. Et peut-être qu'ils y croient plus en Maï et comment il s'appelle l'autre là, Thibaut et consorts là, et Shrek, ils y croient peut-être plus. Allez va, c'est super de passer des messages comme ça, au revoir.
Salut Mermel, d'habitude tu m'énerves avec que t'es trop anti-Sarko, j'écoute France Inter tout le temps, j'ai 71 ans, et aujourd'hui avec le procès de Kouchner, je me suis marrée. Alors du coup demain matin, si ça continue demain, je prends pas mon antidep. Alors, je t'aime bien aujourd'hui. Salut, Mermet. Je m'appelle Lucienne.
Eh bien, un message qui est très simple. J'ai écouté avec attention et plutôt pris en route l'émission de cet après-midi. Un bon relent du tribunal des flagrants délires avec notre défunt regretté des proches. Même si la vie est bien triste, ça donne encore malheureusement à faire sourire. C'est bien et ça fait du bien. Et merci à Daniel pour son côté encore contestataire. Quand on a envie d'abandonner, on se dit qu'il y a encore des gens qui ont la foi de réagir. Merci, merci pour tout ce que vous avez fait.
Bonjour et merci à toute l'équipe. Je suis Solange Baume à Aramon. Alors, ce matin, j'étais surprise. France Inter n'en parle même pas. On préfère recevoir Claude Guéant qui nous rebat les oreilles avec le plan des grands travaux de Sarkozy. Mais du prêt 1% réservé aux salariés, eh bien, cela n'intéresse pas les riches. Alors, ce prêt passe-travaux est clos depuis aujourd'hui. La décision a été prise le 26 novembre et ça a été rapidement appliqué. Plus aucun dossier ne peut être déposé. Rien n'est prévu pour le remplacer. Voilà. Merci pour votre émission. Au revoir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit message. J'étais hier soir à l'Espace Saint-Michel pour ce film modeste et génial, Chomsky et compagnie, suivi du débat avec Monsieur Mermet et Monsieur Azam et Monsieur Anctil. Un grand bravo pour ce film, même si pour un étudiant comme moi, très dense, mais très intéressant. Voilà, merci beaucoup et continuez à nous faire vivre tout ça. Voilà, merci, au revoir.
Salut Daniel, alors ça y est, notre président va pouvoir nommer le PDG de France Télévisions. Voilà, et donc il pourra placer un copain, comme il a déjà placé ses copains et ses copines à TF1. Donc nous serons bien informés, la plus grande rédaction de France sera bien dirigée par un copain de notre président. Mais alors le plus fort dans l'histoire quand même, c'est que ce vote a été donc effectué hier à l'Assemblée, et il y avait quand même 65 députés présents sur les 570, hein. Il y en avait 65, dont 21 à gauche, voilà. Il y a environ 230 députés de gauche dans ce pays, mais il n'y en avait que 21 qui étaient présents pour décider de ça, voilà. Donc c'était en réaction à cet auditeur hier qui était assez énervé parce que les Français n'avaient pas voté au prud'homme. Donc nos députés sont, je sais pas où, de gauche, en tout cas ils sont en vacances ou en train de recompter les bulletins entre Ségolène et Martine. Voilà, je suis de vomir et je pense que il y a que les armes maintenant. C'est plus les bulletins de vote, c'est les armes. Allez, ciao, bye.
Voilà, merci, bravo. Camarades techniciens, ont trouvé le bon bouton. Alors, je vais changer de table. Voilà. Non, ça ne s'arrange toujours pas. Alors, je vais changer de micro. Ah, oui, c'est un micro. Top. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, ben, ça s'appelle un faux départ. En tout cas, cet auditeur qui réclame des armes peut choquer certaines oreilles, mais après tout, souvenez-vous du début de notre hymne national. Alors aujourd'hui, bien c'est la suite du tribunal des condamnés d'avance, deuxième partie. La matière est tellement dense qu'il vous faudra encore attendre jusqu'à lundi pour avoir réquisitoire et plaidoirie. Et oui, c'est une grande affaire quand même que ce tribunal des grands condamnés d'avance, qui est, je le rappelle, l'ai-je assez dit, coproduit avec le journal en ligne Bakchich, que vous connaissez bien, nous le savons, puisque on y trouve des auditeurs et des lecteurs communs. Alors, concernant Chomsky, merci pour hier soir, vous étiez nombreux. Je voudrais dire que ce soir, ce vendredi 5 décembre, c'est au Méjean à Arles, le cinéma de Méjean à Arles, à 20h30, que vous pourrez voir le film. Il est dans une... Regardez autour de vous le programme, allez voir sur le site de Chomsky et compagnie pour voir le programme, si le film passe près de chez vous, en tous les cas il passe ce soir à Arles, donc à 20h30, et suivi d'un débat avec Guy Van Cotil, demain samedi, la lumière à la Ciotat, là aussi, après la séance qui aura lieu à 20h, un débat avec Guy, samedi à 17h à la Talente à Bayonne, et à 20h30 au Méliès à Pau, dans les deux cas, je serai avec vous pour le débat après les projections. Dimanche, c'est un peu long mais tant pis, dimanche 11h à l'Escurial à Paris 6e, dans le cadre des dimanches documentaires, le film sera suivi d'un débat avec Olivier Azam. Quant à moi, je serai également le 7 décembre, dimanche à 14h au Grand Club à Dax. 14h, c'est le début du film et suivi du débat. Voilà, c'est organisé ça par Attaque. Et puis une chose sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, il existe un très court texte, un extrait d'un travail de Bertolt Brecht entre 1927 et 1932. Le grand dramaturge et poète allemand que vous connaissez, Bertolt Brecht, s'est penché sur l'histoire de la radio. La radio qui commençait, qui se développait à travers le monde et à travers son pays, l'Allemagne, où elle allait jouer par la suite le rôle fatidique que l'on sait. Et Bertolt Brecht écrivait ceci, écoutez bien ces lignes. Pour dépister, on est en 1928, pour dépister ce qu'il y a de positif dans la radio, voici une proposition visant à transformer sa fonction. Il faut la transformer d'appareil de distribution en appareil de communication. La radio pourrait être le plus formidable appareil de communication qu'on puisse imaginer pour la vie publique, un énorme système de canalisation, ou plutôt elle pourrait l'être si elle savait non seulement émettre, mais recevoir, non seulement faire que l'auditeur écoute, mais le faire parler, ne pas l'isoler, mais le mettre en relation avec les autres. Il faudrait alors que la radio, abandonnant son activité de fournisseur, organise cet approvisionnement par les auditeurs eux-mêmes. Eh bien, en 1928, le grand Bertolt Brecht avait inventé d'un seul coup le répondeur de là-bas si j'y suis et les repères de là-bas si j'y suis. Donc aujourd'hui, deuxième partie du tribunal des condamnés d'avance, coproduit avec Bakchich.fr, Bakchich en ligne. Auparavant, encore quelques messages dont certains sont particulièrement gratinés et jubilants, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. À l'initiative du Forum social des quartiers populaires, du MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues, de AC Le Feu, de l'association Bouge qui Bouge, du MRAP, de l'association Droit de Cisté, du collectif Lamine Dieng et du collectif Justice pour Hakim Hajimi, samedi 6 décembre à 15h, au métro Odéon, lancement de la campagne Police, personne ne bouge. Alors, lors de contrôle d'identité ou d'interpellation, la police applique une méthode d'immobilisation qui, dans sa pratique, peut provoquer de graves lésions, voire la mort. Cette méthode consiste à ce qu'un fonctionnaire de police étrangle la personne qui se trouve au sol, pendant qu'une autre lui comprime la cage thoracique en appuyant fortement son genou dans le dos. Sidney Makoma de Tourcoing, Lamine Dieng de Paris 20e et Hakem Hajimi de Grasse en sont morts. Cette méthode est interdite en Suisse, Belgique, Allemagne, à New York et à Los Angeles. La France a même été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Venez nombreux samedi 6 décembre à 15h au métro Odéon pour assister au lancement de la campagne « Police, personne ne bouge ». À 15h30, présentation de la campagne par Tarek Kaoutari du MIB, Mohamed Meshmash d'Assez le Feu, Olivier Besnancenot du NPA, de Mouloud Aounit du MRAP, de Samir Balouj du MIB, de Ramata et Lassana Dieng, ainsi que les amis de Karim Hajimi de Grasse. Merci beaucoup, à bientôt. Bon courage, bonne lutte à tous. Salut.
Salut les auditeurs modestes et géniaux de l'Isère. Ouverture du repère de l'Abbatie Jésuite sur le plateau des Petites Roches, ce soir au Sabot des Muses à 18h30 à Saint-Bernard-du-Touvet. Venez nombreux.
Oui, c'est Dany d'Aix-en-Provence. Bonjour à Daniel Mermet, bonjour à toute l'équipe. La chorale des Mille Colombes est un mouvement de résistance ludique créé par Christophe Lévesque le 6 mai 2007 à 23h17 suite à l'apparition de Mireille Mathieu sur la scène de la place de la Concorde à Paris. À Marseille, la chorale des Mille Colombes se retrouve chaque trimestre devant le restaurant Le Fouquet, situé rue Beauvau, dans le premier arrondissement de Marseille, à 50 mètres de l'Opéra, pour exécuter les œuvres immortelles de Mireille Mathieu et d'Enrico Macias. La prochaine répétition aura lieu ce samedi 6 décembre à midi, jour de la Saint-Nicolas. À jour exceptionnel, chef de chœur exceptionnel. En effet, Christophe Lévesque en personne fera une escapade à Marseille pour diriger notre chorale. On évoque même la présence de Mireille Mathieu, ou de son sosie, qui annulerait une tournée au Japon pour rencontrer Christophe Lévesque lors de son passage à Marseille. Christophe Lévesque et Mireille Mathieu, une rencontre absolument inédite. Soyons donc nombreux ce samedi 6 décembre devant le restaurant Le Fouquet. Bonne journée à tous, c'est Dany d'Aix-en-Provence.
Salut Daniel, voilà on est vendredi, ce week-end il va y avoir la grande messe du Téléthon et une fois de plus je suis énervé. Alors ça tombe que je suis un jeune ancien chercheur encore précaire et je vois un peu de près le monde de la recherche. Eh bien je dois dire que j'ai pas de quoi être fier, hein, mais j'aimerais quand même alerter les gens pour qu'ils soient au courant de ce qu'on fait avec leurs impôts. Alors plutôt que d'investir dans la recherche sur ces fameuses maladies rares, hein, par exemple, on investit massivement dans des marchés beaucoup plus juteux, comme l'armement. Le pire, c'est que même quand ce n'est pas directement pour l'armement, énormément de projets et de recherches sont financés parce qu'il y a des applications militaires potentielles. Alors ça peut être des domaines aussi variés que la météorologie, l'océanographie, et puis comme je suis de Toulouse, je vais aussi citer l'aérospatiale. Beaucoup de gens comprennent pas pourquoi on dépense autant dans ce domaine, et c'est pourtant très très clair. Si on maîtrise la technologie pour envoyer des fusées dans l'espace, ben on va aussi maîtriser cette technologie pour fabriquer des jolis missiles qui peuvent faire le tour de la planète. Et oui, tout d'un coup, tout s'éclaire. Et puis les satellites, GPS et autres gadgets, faut pas oublier qu'au départ, c'est fait pour espionner. Le GPS pour la voiture, pour la météo, et puis le téléphone portable, par exemple, pour les civils, ce ne sont que des applications connexes qui n'auraient jamais vu le jour si au départ, il n'y avait pas eu d'enjeu militaire. Alors j'en arrive à ma proposition pour le Téléthon, hein, pour ce week-end. Si vraiment on veut guérir toutes ces maladies rares, il faut trouver d'urgence une application militaire potentielle. Alors je propose que tous ces malades s'engagent dès ce week-end à rentrer dans l'armée, dès qu'ils seront guéris. Voilà, c'est simple. Hein. Puis, en effet, quoi de plus dangereux qu'un ex-myopathe que l'on aura savamment équipé d'un fauteuil roulant bourré d'explosifs. Avec ma proposition, ben, on peut être sûr que d'ici 2-3 ans, les maladies rares seront toutes guéries. Voilà, allez tous voir Chomsky et compagnie, ça redonne la pêche. C'était Samy de Toulouse.
Oh là 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 là, quelle bonne nouvelle à 11h03 aux informations de France Inter. La F1 a des difficultés. La F1, les écuries de Formule 1, vous savez, là, les types qui tournent en rond autour d'un circuit, ça pue, ça pollue, il y a plein de pubs. Bon, il paraît qu'il y a de jolies filles quand même qui tournent autour. Hein. Eh bien, Honda va se retirer de la F1. La F1 a des ennuis et des soucis de trésorerie et de sponsoring. Mais c'est excellent, la crise n'est pas que négative. Bon, ce que je regrette quand même, c'est que quand vous vous mettiez devant une retransmission de TF1 sur les F1, l'intérêt, c'est que c'était tellement soporifique, qu'est-ce que c'était bien, on s'endormait rapidement, c'était un somnifère super efficace et pas cher. Bon, mais voilà, c'était un message réjoui du PDB en direct de Montauban. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est le repère du 20e qui vous appelle pour vous donner le rendez-vous de cette semaine. Samedi 6 décembre au lieu dit de 17h à 19h et on va accueillir les éditions 2001 avec Arnaud Mansoury. Il nous présentera le livre de Richard Imbert, Pétrole, la fête est finie. Voilà, je vous recommande vraiment de lire ce truc-là, c'est édifiant. Ben, à bientôt, venez nombreux et bon week-end à tous. Salut.
Bonjour, ici les enseignants, les parents d'élèves de l'école Saint-Roch à Nice qui occupent leur école ce soir. Il est bientôt minuit. On discute, on débat et on chante.
À Saint-Roch et sans prétention, on a mauvaise réputation. Qu'on s'émène ou qu'on reste quoi, on passe pour un je ne sais quoi. On ne fait pourtant de tort à personne, en protégeant ensemble notre école. Mais Darcos n'aime pas que l'on suive notre route que. Non, Darcos n'aime pas que l'on suive notre route que. La France en haut nous montre du doigt. Sauver les parents, ça va de soi. Le soir après la fin des cours, on vient pour occuper la cour. On mange, on boit et on délire, on s'organise pour l'avenir. On ne fait pourtant de tort à personne, en protégeant ensemble notre école. Mais Darcos n'aime pas que l'on suive notre route que. Non, Darcos n'aime pas que l'on suive notre route que. La France en haut nous montre les doigts. Sauf les parents, ça va le
soir. Et voilà, à bientôt.
C'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Bakchich, le tribunal des condamnés d'avance. Flight number two, arriving. La séance reprend avec une question. Que restera-t-il de Bernard Kouchner et de son œuvre dans les livres d'histoire de nos arrière-petits-enfants? Un sac de riz, un demi bien frais, peut-être. Mais surtout, il restera le droit d'ingérence. Après avoir apporté au monde les droits de l'homme, la France, avec Bernard Kouchner, a apporté à l'humanité tout entière le droit d'ingérence. Pour en parler et pour témoigner, nous demandons au professeur Jean Bricmont de bien vouloir rejoindre le micro. Le professeur Jean Bricmont enseigne la physique théorique en Belgique et il est l'auteur de « Impérialisme humanitaire » aux éditions Aden. Professeur, vous avez entendu la question qui angoisse la cour, ainsi que l'assistance. Que restera-t-il de l'œuvre de Bernard Kouchner en matière de droit d'ingérence? Nous vous écoutons, mais auparavant, je vous demanderai de bien vouloir jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ».
Je le jure.
Nous vous écoutons, professeur.
Merci. Le principal procès que l'on puisse faire de Bernard Kouchner est d'avoir été l'architecte intellectuel du droit d'ingérence. C'est-à-dire de l'idée que la France, les États-Unis ou l'OTAN ont le droit d'intervenir militairement en violation du droit international dans le reste du monde pour y faire respecter la démocratie ou les droits de l'homme. Cette doctrine a été appliquée en Bosnie et au Kosovo, en partie en Afghanistan et en Irak, et elle sous-tend en grande partie l'agitation en France à propos du Tibet et de la Géorgie, du Hamas et du Hezbollah, du Soudan et du Zimbabwe, de l'Iran, ainsi que de Cuba et du Venezuela. Il y a deux types de critiques que l'on peut faire de cette idéologie. L'une, c'est celle de la sincérité ou de la cohérence, le discours d'ingérence humanitaire coexistant souvent avec un soutien à des dictatures amies. Ce sujet ayant été évoqué par de précédents témoins, je propose de me concentrer sur la question des conséquences de l'idéologie de l'ingérence. Tout d'abord, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on entend par le droit d'ingérence. On ne suggère pas que le Brésil a le droit d'intervenir en Irak pour y instaurer une démocratie et accessoirement s'emparer de ses ressources pétrolières. On ne suggère pas non plus que le Bangladesh a le droit d'intervenir aux États-Unis pour les forcer à réduire leurs émissions de CO2 qui risquent de nuire gravement à l'avenir au Bangladesh. Non, ce que ce droit signifie, c'est le droit unilatéral des pays puissants d'intervenir dans les affaires intérieures des pays faibles. La question qui se pose est : la France est-elle un pays puissant ? Je ne veux vexer personne. Je sais, et mon accent le trahit, que je ne suis que belge. Néanmoins, qu'en est-il alors de cette politique d'ingérence américaine, cher à Monsieur Kouchner? Qu'en est-il de ses conséquences pour ce qu'on appelle aux États-Unis le reste du monde? Il y a ce qu'on pourrait appeler tuer l'espoir. Tuer l'espoir des pauvres, des changements pacifiques et réformistes dans le tiers-monde, des politiques d'éducation, de santé publique ou de réformes agraires, qui ont été représentées par des gens très différents et à des époques différentes, comme Lumumba, les Sandinistes, Allende, Mossadegh, Arbenz, Mandela ou Chavez, et que les États-Unis ont systématiquement renversé, saboté ou diabolisé. L'autre chose que l'idéologie de l'ingérence de M. Kouchner oublie, c'est que, vu d'un point de vue global, et pas seulement européen, la principale transformation sociale du XXe siècle, le principal mouvement du XXe siècle, n'a pas été l'histoire du communisme, ni la défaite du fascisme, mais la décolonisation. La décolonisation a permis à des centaines de millions de gens en Asie et en Afrique d'échapper à une forme particulièrement barbare de domination raciste. Mais elle a aussi inversé de façon définitive le mouvement de domination occidentale sur le reste du monde, commencé à la fin du XVIe siècle. Cette période est terminée. Le tiers-monde, qu'on le veuille ou non, est debout, avec ses révolutions et ses tragédies, avec ses dirigeants et ses opposants, avec ses immenses misères, mais aussi avec ses immenses progrès. Ce n'est pas l'Occident qui va résoudre leurs problèmes par la guerre. Nous ferions mieux d'écouter le mouvement des pays non alignés, qui regroupe la majorité de l'humanité, et qui s'est réuni à Kuala Lumpur, en Malaisie, quelques semaines avant le début de l'invasion de l'Irak, en 2003, pour réitérer, je cite, « le rejet par le mouvement des pays non alignés du soi-disant droit d'intervention humanitaire, qui n'a aucune base dans la Charte des Nations Unies ou dans le droit international. » Monsieur Kouchner aura quand même eu le mérite de faire en sorte que son concept préféré aura attiré l'attention de ce vaste mouvement des pays non alignés, même si c'est pour le rejeter. Loin de dominer le monde, les États-Unis en dépendent. Ils en dépendent pour leurs matières premières, pour les produits manufacturés faits à bon marché, mais aussi pour leur cerveau et aujourd'hui pour le sauvetage de leurs institutions financières. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si les États-Unis vont continuer à dominer le monde, mais comment ils vont accepter la perte inéluctable de leur hégémonie, de façon pacifique ou par une fuite en avant et une guerre généralisée. Et pour nous, Européens, la question qui se pose et de savoir si nous voulons monter dans le bateau en perdition des États-Unis, comme nous y invitent Messieurs Kouchner et Sarkozy, ou bien nous joindre au reste du genre humain et construire un monde post-impérialiste qui, à mon avis, est la tâche principale politique de notre temps. Et pour ce qui est de Monsieur Kouchner, s'il y avait une justice en ce bas monde, il serait condamné à être réincarné comme Serbe du Kosovo, comme sunnite irakien, comme paysan afghan, ou comme palestinien dans la bande de Gaza.
Est-ce que monsieur le procureur a des questions à poser aux témoins?
Le procureur ne veut pas s'aventurer à poser des questions aux témoins, mais la défense, oui, la défense a des questions.
Bien sûr, monsieur le président.
Ah.
D'abord, je voudrais dire aux témoins que, comme tout le monde ici, j'ai été touché par son exposé. C'était émouvant. D'ailleurs, j'en ai entendu un enfant pleurer dans la salle. C'est un signe certain de votre talent oratoire. Vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, que vous êtes professeur, mais vous êtes professeur de physique. Vous n'êtes pas professeur de droit.
Non.
D'accord. Alors, je comprends mieux parce que vous nous avez dit que le droit d'ingérence n'avait aucune base dans le droit international.
J'ai cité le mouvement des pays non alignés.
J'étais un petit peu...
D'intervention unilatérale, évidemment.
Alors, il y a quand même deux résolutions que vous connaissez certainement, ouais. Deux résolutions des Nations Unies, la résolution 43-131 et 45-100, je suis désolé d'être un petit peu précis, mais qui prévoit quand même ce droit d'ingérence et qui crée le corridor humanitaire. Alors, ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité, et il me semble qu'elles prévoient ce droit d'ingérence dans le cadre, évidemment, et sous le contrôle des Nations Unies. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que pour vous le droit d'ingérence est à bannir en toute occasion ou est-ce qu'un droit d'ingérence qui serait organisé dans le cadre des Nations Unies et dans un cadre certainement des Nations Unies rénové où par exemple il n'y aurait pas de droit de veto des États-Unis, donc un cadre prospectif, serait à même de constituer une avancée ou est-ce que dans tous les cas c'est finalement pour vous un outil de l'impérialisme?
Merci. D'abord j'ai cité le mouvement des non-alignés, je n'ai pas voulu citer la citation complète qui est un peu plus longue, d'un des articles de leur résolution. Ils l'ont fait le 15 février 2003. La guerre commençait le 24 mars 2003. Donc c'était quelques semaines avant, c'était clairement dans ce contexte-là, et c'était la question évidemment du droit d'intervention dit humanitaire, mais unilatéral, par les grandes puissances. C'est la seule chose que j'ai voulu discuter. Toutes les résolutions et toute la base des Nations Unies, tout le droit international sanctionné par les Nations Unies, je ne le critique pas par principe. Je critique seulement le retour, à mon avis, des décennies en arrière par rapport à la constitution du droit international à la fin de la guerre, qui est justement l'idée que les Nations Unies ont été fondées pour prévenir et épargner à l'humanité le fléau de la guerre et ont mis comme principe la non-intervention unilatérale dans les affaires intérieures d'un autre pays. Ça, c'est le principe de base, si vous voulez, des Nations Unies. Il ne faut pas oublier qu'à Nuremberg, un des principaux crimes dont étaient accusés les nazis, c'est le crime contre la paix, c'est-à-dire le fait de déclencher des guerres de façon unilatérale. Au nom des Nations Unies, la question des Nations Unies, comme vous dites, c'est le Conseil de sécurité, le droit de veto, les deux poids, deux mesures. Quand on regarde le nombre de condamnations en ce qui concerne Israël pour lequel les États-Unis mettent leur veto, il y a deux poids, deux mesures qui font que le système ne fonctionne pas. Mais en principe, je ne suis pas contre ce système. Au contraire, je suis pour. Mais quand on voit le résultat des courses, quand on voit le désastre qui est en Irak, qui n'est pas réparé, qui n'est pas terminé, qui va continuer, etc., quand on voit les problèmes qu'on a créés en Palestine, quand on voit les problèmes qu'on crée maintenant en Afghanistan, qu'on a vu les problèmes qu'on a créés maintenant en Somalie, il faut se poser des questions sur cette ingérence. Il me semble que si on repensait, et ça c'est l'important, si on repensait notre rapport au reste du monde, si on coopérait effectivement avec les blocs qui existent en dehors de l'Europe, si on essayait de ne pas toujours les provoquer, de ne pas toujours les diaboliser, de ne pas toujours les contrôler et les dominer, alors je pense qu'on pourrait avancer vers des solutions plus pacifiques. Mais ça, il faut tenter pour le faire. Non seulement l'ingérence occidentale est criminelle, mais elle est aussi futile.
Merci beaucoup, monsieur Jean Bricmont. Il faut rappeler que monsieur Kouchner a approuvé l'intervention militaire américaine en Irak en 2003 et rappelons à l'occasion qu'entre 2003 et 2008, sur 5 années, cette guerre a fait plus de victimes que dans les 5 années précédentes au temps de la dictature de Saddam Hussein. Mais passons, si vous voulez, à des considérations un peu plus légères, car en effet, on ne peut évoquer Bernard Kouchner sans rappeler qu'on l'appelle également, les mauvais esprits, l'appelle Monsieur Okrent. Et on ne peut évoquer Bernard sans penser, même sans rêver, à Christine, l'une des grandes icônes de la vie intellectuelle et médiatique française, elle aussi, injustement calomniée, ridiculisée, en proie au ragot. Il nous a semblé intéressant d'entendre un témoignage au sujet de celle qu'on appelle la femme de ménage, à cause des ménages faramineux qu'elle opère à droite, à gauche, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs. Et je vais demander à Mélodie Durand, qui devrait arriver, Mélodie Durand. Si j'ai bien compris, Mélodie Durand, vous êtes stagiaire chez Madame Okrent. Je vais vous demander pour votre témoignage de bien vouloir nous dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ».
Je le jure.
Nous vous écoutons.
Je tiens à préciser que je ne suis pas stagiaire. Je suis maintenant jeune journaliste à France 24.
Ah, jeune journaliste, quand même. Bien.
Et je tenais à vous dire que la patronne de la rédaction, donc de France 24, est la reine Christine, comme on l'appelait du temps de sa splendeur, lorsqu'elle était giscardienne. Et le président Nicolas Sarkozy l'a même qualifiée de journaliste d'exception. C'est une fierté pour nous. C'est comme cela qu'elle a été directement choisie pour être à la tête du pôle audiovisuel extérieur par Monsieur Nicolas Sarkozy lui-même, par l'intermédiaire de son compagnon, donc Bernard Kouchner, et de la ministre de la Culture, Christine Albanel. Bon, évidemment, c'est vrai, le fait qu'elle soit la femme du ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, posait un petit problème. Oui, c'est lui qui est une des autorités de tutelle, mais... Attendez, dans n'importe quel autre pays développé, elle n'aurait jamais été nommée. Mais nous, c'est différent, on est en France. Les femmes n'ont pas à être pénalisées par leur mari. Et Christine est tellement exceptionnelle que la République et la rédaction de France 24 ne pouvaient pas se passer d'elle. Le président l'a compris et l'a nommée, malgré cet évident conflit d'intérêts. Faut être logique. Évidemment, c'est un peu difficile de critiquer la politique étrangère de la France. La patronne vit avec le patron du Quai d'Orsay. Faut être logique. Et si jamais on le fait, vous me direz-vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est viré, par exemple. Ulysse Gosset est un journaliste qui supervisait un reportage sur Bernard Kouchner en juillet 2008. Et Bernard Kouchner, il a pas supporté le reportage, il s'est énervé sur le plateau. Bah, tout récemment, Ulysse Gosset s'est fait un petit peu écarter de France 24, quoi. C'est pas un hasard, bon. Autre exemple, plus récent, à la mi-août, Christine Okrent, qui venait d'être nommée à la tête de RFI, en plus de ses fonctions de numéro 2 de l'audiovisuel extérieur, elle a décidé de licencier pour faute grave une des plumes, dit-on, de la radio, Richard Labévière. Cet ami du site Bakchiche a toujours travaillé de façon indépendante, dit-on, un esprit libre qui ne cachait pas ses engagements pro-palestiniens et anti-Bush. Et ben voilà qui n'a pas plu à l'épouse de notre Kouchner bien-aimé, dont les engagements en faveur de l'intervention américaine en Irak sont connus. Exit donc Richard Labévière. Enfin, dernier exemple, un des rédacteurs en chef de France 24, Bertrand Koch, qui avait écrit il y a 15 ans un livre virulent contre Kouchner. Le livre s'appelait « Les tribulations de Bernard Kouchner en Yougoslavie ». Eh ben, en septembre, le 16 précisément, on l'a fait partir et on a dit qu'il était caractériel. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il l'était un peu. Mais bon, c'est pas là l'essentiel. Faut être logique.
Alors, je vous remercie, mademoiselle.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On a évoqué, on vient d'évoquer Bernard Kouchner aux affaires étrangères. Et là, deux questions se posent. C'est la popularité.
C'est scandaleux! C'est du persiflage politico-médiatique.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous?
De verbiage. J'accuse le public de non-assistance à clown en danger. À couple en danger. C'est honteux!
Est-ce que vous voulez témoigner, madame?
Oui.
Alors allez-y, oui. Venez jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je m'appelle Marie-Dominique de Sans-Vergogne.
Très bien, vous voulez témoigner?
Je veux donner le point de vue de la rue de la pompe.
Auparavant, madame, je vais vous demander de bien vouloir jurer de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ».
Mais enfin, oui, bien sûr, je le jure.
Nous vous écoutons.
C'est scandaleux, c'est... Monsieur le Président, je suis très émue, très en colère. Je ne peux accepter qu'on ternisse ainsi l'image d'un couple aussi merveilleux. Bernard, notre séduisant French docteur, au lieu d'aller courir les filles, lui, il partait soigner les petits bien frais. Lui, il fondait Médecins Sans Frontières. Il partait au Kosovo comme représentant spécial de l'ONU. Et puis, grâce à qui? Vous le savez, grâce à qui il a pu faire tout ça? Grâce à Titine. C'est sa Titine qui a gagné suffisamment pour qu'il puisse aller faire du bénévolat. D'ailleurs, avec leur ami Nicolas, maintenant qu'il va pouvoir nommer et révoquer à sa guise le président de la télévision publique, ils vont pouvoir laver leur beau linge en famille. C'est ça l'ordre, c'est ça être encerclé comme il faut. C'est ça. Et maintenant, elle n'aurait pas le droit d'avoir un salaire décent, monsieur le président? 40 000 euros par mois? 120 000 euros pour des piges à France 24, quelques ménages au MEDEF, comme vous disiez tout à l'heure. Microsoft, Windows, Caisse des dépôts. Enfin, c'est le minimum pour un couple aussi prestigieux qui dirige notre quotidien cathodique. Et d'ailleurs, elle a reçu la Légion d'honneur sur le quota du ministère des Affaires étrangères. N'est-ce pas merveilleux? Non, mais enfin, ces accusations de conflit d'intérêts après sa nomination à France Monde, mais c'est d'un ridicule! Elle le dit elle-même, d'ailleurs elle répond très justement: je ne vois pas au nom de quoi une femme devrait sacrifier son parcours professionnel à celui de son conjoint. Surtout quand son conjoint bénéficie d'un emploi précaire. Oui. Bernard, il n'a qu'un petit CDD? C'est d'une précarité incroyable.
Merci beaucoup. Merci. La Défense.
J'évoque simplement cette vision idyllique. Un monsieur qui est un intermittent du spectacle. Et sa femme qui travaille pour le nourrir. Mais quelle plus belle image du couple aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez avoir des questions? Merci beaucoup. Pour connaître un peu plus de choses sur Bernard Kouchner et les affaires étrangères, nous faisons appel à Jean-Marc Daniel, qui est professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, ancien haut fonctionnaire aux affaires étrangères, notamment dans les cabinets de Roland Dumas et d'Hubert Védrine. Jean-Marc Daniel, je vais vous demander de jurer de dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ».
Alors, je le ferai pas pour deux raisons. La première, c'est que, ayant passé quelques années au Quai d'Orsay, je pense que c'est contraire à l'éthique du métier de dire la vérité. Et la deuxième raison, c'est parce que Bernard Kouchner est un ancien 68-art, et à l'époque où il courait les barricades, Guy Debord expliquait, en tant que situationniste, que la vérité était une des formes particulières du mensonge et certainement pas la plus intéressante.
Donc, on passe. On passe. Donc, pas de main levée. Alors, on franchit cet obstacle. La Défense.
Nous l'entendrons à titre de simple renseignement.
Voilà. Vous êtes là pour le renseignement.
Alors, je veux bien jurer à condition, parce que j'enseigne l'économie. Donc, en tant qu'économiste, jurer que je vais dire la vérité, vu ce que racontent les économistes, ça n'engage vraiment à rien.
Très bien. Alors, nous écoutons donc votre témoignage, Jean-Marc Daniel.
On peut raconter plusieurs choses sur ses rapports avec le Quai d'Orsay. La première, c'est que on veut le garder longtemps au Quai d'Orsay parce que avant lui, il y avait déjà un médecin qui était un incapable. Avec lui, il y a un médecin qui est un incapable. Donc, on se dit jamais 203 et on sait jamais ce qui peut arriver. Les réserves dans la profession médicale étant extrêmement importantes, le Quai est assez inquiet sur ce qui peut arriver. Alors, sinon, la deuxième reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est un reproche qu'on pourrait faire plutôt à Madame Okraine, c'est-à-dire qu'il s'ennuie le soir. Et donc, il convoque des réunions, et ça, c'est très mauvais pour la littérature française. Pourquoi? Parce que, autrefois, un diplomate, à 8 heures du soir, était à l'opéra, Il était avec sa maîtresse, ou il était chez lui en train de rédiger des heures éternelles que personne ne lit, comme Saint John Perse, qui était quand même une des gloires de la maison. Et maintenant, à 8 heures du soir, il est dans le bureau du ministre qui s'ennuie, moyennant quoi la littérature française est passée de Saint John Perse à Marc Lévy. Il y a quand même un effondrement. Donc, deuxième faute de Bernard Kouchner, à mon avis. Alors, troisième chose, c'est qu'on attendait de Bernard Kouchner qu'il s'intéresse un peu à la maison. Moi, à titre personnel, j'ai connu une époque où Bernard Kouchner était secrétaire d'État à l'action humanitaire et les French Doctors étaient dans une tenue adéquate, c'est-à-dire débraillée sans cravate. Mais de temps en temps, quand on recevait un ambassadeur, il fallait mettre une cravate. Et Bernard Kouchner mettait à disposition une cravate, et pas n'importe quelle cravate, c'était une marinella. Pour les gens qui savent ce que c'est que l'élégance, la marinella, c'est la cravate de Mitterrand, c'est la cravate de Clinton, c'est la cravate qu'on achète qu'à Naples et fort, fort cher. Et donc, il y avait le sens du détail, le sens de la précision. Une autre fois, me trouvant en voyage avec lui au Togo, je suis convoqué avec le membre de son cabinet. Il est minuit, nous nous attendons à préparer les dossiers du lendemain. Et le ministre nous réclame... Il nous accueille, nous avons force dossier à la main, nous sommes prêts, nous allons répondre à ses questions. Et à ce moment-là, il sort deux capotes anglaises, il en donne une à chacun d'entre nous et il dit « Faites attention quand même ».
Merci beaucoup. Est-ce que, monsieur le procureur, des questions à poser? Le procureur est très très calme, vous avez vu le procureur. Le procureur se prépare pour son réquisitoire, je pense. La défense?
Pas de question.
Pas de question, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Merci beaucoup. Jean-Marc Daniel. Un des témoins que nous avons eu à entendre, qui est un collaborateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, nous disait que Bernard Kouchner sait utiliser les médias, leur fournir les images dont ils ont besoin. L'important, c'est qu'on parle de lui. À Libération, au Monde ou au Nouvel Obs, ajoutait ce journaliste qui est un grand reporter, dans les radios et les télés, on vous prévient, Bernard est un ami du journal. Ce qui veut dire bien évidemment que le papier que vous préparez a assez peu de chances de trouver de la place dans le dit journal. Pour parler des relations entre Bernard Kouchner et les médias, nous allons faire appel à un connaisseur qui est Daniel Schneiderman, qui est lui-même journaliste, et qui anime, comme vous le savez, le site ASSI, c'est-à-dire Arrêt sur Image. Monsieur Daniel Schneiderman, je vais vous demander de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure » et de vous engager à dire la vérité, rien que la vérité.
Toute la vérité, monsieur le Président.
Toute la vérité.
Je le jure.
Nous vous écoutons.
Monsieur le Président, quand j'ai reçu la convocation à votre tribunal des causes condamnées d'avance, c'est bien la dénomination du tribunal.
C'est les grands condamnés d'avance.
Les grands condamnés d'avance, excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai pas hésité une seconde, d'abord parce que par les temps qui courent, il vaut mieux ne pas trop hésiter à déférer aux convocations de justice quand on est journaliste. Il y a là une mesure de prudence élémentaire, enfin, à laquelle je me suis toujours conformé et dont je me suis bien trouvé. Et ensuite...
De couardise commune à nos métiers.
Absolument, monsieur le Président. Je ne saurais vous contredire dans cette audience, surtout sur ce point. Et je n'ai pas hésité une seconde non plus, puisque depuis 1992, c'est-à-dire depuis que mon métier de journaliste consiste à regarder la télévision, monsieur le Président, vous le savez, et j'imagine que c'est pour cette raison que vous m'avez invité, je vis avec Bernard Kouchner. Il fait partie de mon paysage du matin. Au-dessus du ronronnement de la cafetière, un matin sur deux, j'entends Bernard Kouchner à une des stations périphériques ou nationales. Je vis avec Bernard Kouchner le soir, un soir sur deux, un soir sur trois. Alors moi maintenant, monsieur le Président, nous allons y revenir, mais quand j'ai commencé mon métier de critique de télévision au Monde, un soir sur deux ou un soir sur trois, ou au minimum un soir par semaine, Bernard Kouchner était posé sur le plateau du journal de 20h, de PPDA, souvent de Claire Chazal d'ailleurs, parce que Bernard Kouchner avait une prédilection pour le week-end. Pour des raisons, monsieur le Président, je serais bien en peine d'expliquer, mais enfin c'est comme ça. Donc, aucune raison de refuser votre invitation. Et pourtant, Monsieur le Président, je dois vous l'avouer ce soir, je ne me suis jamais senti à la hauteur de cet homme-là. Jamais. Depuis que je vis avec Bernard Kouchner, il me file un sacré complexe d'infériorité à chaque fois qu'il passe sur un plateau de télévision. Et je vous ai dit que c'était fréquent. Quel homme bien! Quel homme bien! Depuis 1992, Monsieur le Président, je l'ai entendu sangloter sur le plateau de Claire Chazal ou de PPDA ou des présentateurs de France 2. Je l'ai entendu demander pardon pour les enfants morts du sida quand il était ministre de la Santé à la suite de transfusions sanguines. Je l'ai entendu engueuler les journalistes, je l'ai entendu m'engueuler moi, parce que je ne faisais rien pour la Somalie, parce que je ne faisais rien pour la Bosnie, parce que je ne faisais rien pour la Tchétchénie. Je l'ai entendu demander pardon pour les victimes de l'amiante. Je l'ai entendu m'engueuler parce que je ne faisais rien pour les victimes de l'amiante. Je l'ai entendu demander pardon, engueuler, je ne sais plus, les journalistes parce qu'ils ne faisaient rien pour la Bosnie. Mais qu'est-ce qui m'a engueulé? Qu'est-ce qui m'a engueulé? Et à chaque fois, qu'est-ce que je me suis senti minable? Alors, évidemment, Monsieur le Président, Bernard Kouchner ne m'engueulait pas directement. C'est-à-dire que c'était un peu plus compliqué, il m'englobait dans un « nous ». Puisque quand Bernard Kouchner venait sur un plateau de télévision, là je parle d'avant 2007, hein, on viendra ensuite, Monsieur le Président, à la période d'après 2007. Quand Bernard Kouchner venait sur un plateau de télévision, il ne disait pas « vous êtes des minables ». On ne parle pas comme ça à la télévision, il disait « nous sommes des minables, nous ne faisons rien ». Il y avait une phrase typique kouchnerienne qui me frappait à chaque fois beaucoup, c'était « et dire que pendant ce temps-là, nous ne faisons rien ». Vous voyez ? Donc il se mettait dans le coup, il était dans le truc. Nous sommes là, fêter Noël, nous réveillonnons dans nos foyers, nous faisons des courses, nous achetons. Alors, comme lui, il revenait de l'enfer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrivait sur le plateau de Claire Chazal à cette époque-là, ça pouvait être le dimanche soir, c'était le 1er janvier, les jours de fête, il arrivait toujours, si vous voulez, en provenance directe de Roissy. Il tombait de l'avion. Il tombait de l'avion, il avait pris le car Air France, qu'il l'avait déposé à la porte Maillot, vous savez, là, sous les affiches géantes de Charles Aznavour. Et donc, moi, je comprenais bien, Monsieur le Président, que quand il disait « nous ne faisons rien », ne parlons pas de lui, puisque lui, il en arrivait. Et à quel prix ? Donc, je comprenais bien que le salaud qui était accusé de ne rien faire pour la Somalie, la Bosnie, etc., les enfants, machin bidule, c'était moi. Et, Monsieur le Président, quelle honte à chaque fois je ressentais. Quelle honte était la mienne. Pendant que Kouchner portait des sacs de riz aux enfants africains, le dimanche, les jours fériés, nous, on était là. Nous, on prenait le métro avec insouciance. On se promenait main dans la main, en amoureux, au Lidl, parfois même au Franprix, Monsieur le Président. Avec des caddies regorgeant de riz, de pâtes, de ton naturel. Au pire, on pointait dans nos confortables ANPE surchauffés, à plantes vertes. Certains touchaient de plantureux RMI. La vie était belle. On ne foutait rien. C'était dégueulasse et Kouchner avait bien raison de nous rappeler à notre égoïsme. Ça, c'était la période d'avant. Et puis, tout d'un coup, tout a changé depuis mai 2007. Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a un épisode qui a dû m'échapper. Il l'a sûrement pas voulu. Il ne peut pas l'avoir voulu, puisque lui, il avait soutenu, je crois, une candidate opposée au président qui a finalement été élu. Donc, il a dû se passer un truc qui nous a un tout petit peu... qui nous a un tout petit peu échappé. En tout cas, ce qui est vrai, Monsieur le Président, et je tiens à le dire, parce que là, je vous parle en tant que téléspectateur régulier, Bernard Kouchner est resté honnête. Il n'a pas renié ses convictions. Et c'est vrai d'abord parce que c'est son nouveau chef de droite qui l'a dit à plusieurs reprises, en parlant de Kouchner et de quelques autres, il a dit « je ne demande à personne de renier ses convictions ». Voilà. Là, je pense qu'on est, on est obligé de le croire. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, attention, Kouchner est ministre, il va dans plein de réunions inutiles avec des gens en gris qui peuvent rien, mais il est toujours contre les bombes, contre les dictateurs et contre les enfants qui meurent de faim. Hein. Il est contre, mais à fond contre. Il n'a rien renié. Et alors là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé quand il passe le matin à la radio ou le soir à la télé, c'est qu'il ne nous engueule plus. Ou moins. En général, d'ailleurs, c'est même lui qui se fait engueuler un peu. J'ai remarqué ça. Il se fait engueuler. Il se faisait pas engueuler avant. C'est du genre... alors, comme ça, vous êtes couché devant Poutine sur la Géorgie. Alors, comme ça, Sarkozy va rencontrer le Dalai Lama dans un trou en Pologne. Et puis, pour le Darfour, vous avez fait quoi exactement? Enfin, quand je dis engueuler, c'est plutôt taquiner. Il se fait taquiner. Les journalistes qu'ils reçoivent ne sont pas méchants avec lui. Alors d'abord, peut-être ils se souviennent bien comment il a passé des années sous les bombes, pendant que tout le monde se gobergeait avec les RMI et dans les ANPE à Plante Verte, là. Puis les journalistes lisent le journal du dimanche et le baromètre des Français qui sont super populaires. Donc, ils savent bien que Kouchner est populaire et en général, ils hésitent à être méchants avec quelqu'un qui est trop populaire. Mais ils sont taquins. Ils sont taquins. Ils peuvent pas s'empêcher. Puis ils veulent montrer qu'ils sont indépendants. Alors lui, monsieur le Président, il s'énerve. Parce que lui, au fond de lui, il sait qu'il est toujours le même. Contre les bombes, contre les enfants qui meurent de faim avec des mouches autour, contre les dictateurs, contre le Dalai Lama, pour le Dalai Lama, excusez-moi. À fond, mais à fond, à fond. Et d'ailleurs, Michel Drucker l'a confirmé, hein. Alors, monsieur le Président, je dois dire que je pensais que vous feriez régner un minimum d'ordre dans cette salle. Je constate qu'on y rit quand je prononce le nom de Michel Drucker.
Mais qu'on fasse évacuer.
Ah non, mais que vous les rappeliez à l'ordre. On ne rit pas quand on prononce le nom de Michel Drucker, monsieur le Président. Donc, Drucker à Kouchner, confirmé, vous n'avez pas mis un mouchoir sur vos indignations, a dit Drucker donc à Kouchner, Nicolas Sarkozy ne vous a pas demandé de changer d'opinion. Kouchner a confirmé, non. Voilà, je m'empresse d'informer la salle que ceux qui n'auraient pas vu l'extrait peuvent venir le voir sur arrêtsurimage.net. 30 euros par an l'abonnement, 12 pour les chômeurs, les précaires et les étudiants. Donc, libre dans sa tête. Libre dans sa tête. L'autre jour, l'autre matin, donc je l'écoutais sur France Inter, demeurant la cyclotée sur les Chinois. Les Chinois, le Dalai Lama, tout ça. Il a dit, on peut pas faire des droits de l'homme tout le temps. Il a dit. Non mais... Mais c'est vrai. Alors c'est vrai que l'émission était un peu compliquée. Il était en train, si j'ai bien compris l'opération à laquelle il se livrait, c'était pas une vraie rencontre, c'était une espèce de fausse rencontre. Je pense qu'on avait dû le briefer et lui dire, les Chinois, écoute Nicolas de Morand le matin, donc si t'as un message... à leur faire passer, c'est le moment.
Monsieur Schneiderman, on vous remercie.
Alors, là, on va faire une suspension de séance. Merci beaucoup.
Lundi, la suite, les plaidoiries réquisitoires et le jugement. D'ici là, vous pouvez laisser des messages sur le répondeur de la base si j'y suis. Si vous avez une idée à quoi pourrait être condamné notre accusé. C'était une émission préparée par Antoine Chao et l'équipe de Bakchich Info. La prise de son était assurée par l'équipe de Radio France, Alain Fauchet, Georges Thaud et Laurent Maquetti que nous remercions. Les musiciens, c'est le basso, le Bakchich All-Star Orchestra, plus connu sous le nom du duo Petite Vengeance, Raphaël Kenen et Jérémy Piazza. Et merci aussi à Jérôme Bourdelon, merci à Daniel Schneiderman, Jean Bricmont, Mélodie Durand, Madame Sylvie, Maître Christophe Claire, Maître Jacques Vergès et Philippe Cohen, le procureur qu'on retrouvera lundi. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Céline Bonhomme, c'est Koyen Guyenne et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Agnès Lebot attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.